Avant-dernier jour de notre balade aux Crozettes, toujours avec Philippe et Alain Fromageau. Aujourd'hui, nous découvrons la maison Dauphin qui sort de l'ordinaire pour plusieurs raisons, dont notamment son style architectural.
Donc cette fameuse maison Dauphin, édifiée en 1470, et aujourd'hui on est dans la façade sud, effectivement, et qui est quelque part très très originale. Je vous ai parlé que les maisons avaient été construites avec les matériaux du secteur, comme bien souvent, granit. Et là, eh bien, c'est complètement à l'envers de ce que je dis. On a des embrasures en pierre jaune. Et ça illustre totalement le fait que cet homme ou ces hommes qui ont fait édifier cette maison étaient des gens aisés, originaux, puisqu'ils sortaient de la tendance et ils avaient connaissance de cette matière, donc ils avaient voyagé. Peut-être pas très loin, mais à l'époque, ne serait-ce que 50 km, c'était le bout du monde. Donc on retrouve ce qu'on appelle communément, ce que vous avez vu dans, entre autres sur Charlieu, ces fameuses pierres argilo-calcaires, ces fameuses pierres dites de Charlieu. Alors pas forcément exactement de Charlieu, mais qui prennent une très belle couleur à la fin de la journée, avec des belles ouvertures. Et à noter évidemment cette totale dissymétrie qui est à contre-courant de ce que l'on a déjà découvert au XVe siècle et qui va se confirmer à la période de Renaissance, la symétrie totale. Là, c'est contre nature, mais ce qui fait bien l'originalité de cette maison, qui entre autres verra en 1806 la naissance de cet homme qui par la suite deviendra Monseigneur Dauphin. Et donc d'où l'appellation de cette maison dite Maison Dauphin, mais pour la petite histoire, ça n'a totalement rien à voir avec l'emblème, le blason du Forez, où on retrouve le dauphin. C'est le nom de ce monseigneur, c'est le nom de famille de cette personne qui, effectivement, vous voyez, c'est pour ça que j'insiste bien, d'accord. À la fois rien à voir avec le blason, mais rien à voir avec la descendance royale. D'accord. Pour autant, cet homme va fréquenter, mais 1806, il naît donc dans cette maison, il mourra, je crois, en 1882. Entre-temps, il aura eu le temps de faire édifier cette église qui sera consacrée en 1862. Et il avait son entrée auprès de Napoléon III. Donc, ce n'était pas le roi, c'était l'empereur. Et par ailleurs, autre place intéressante que j'ai oublié de citer, c'était le confesseur du pape Léon XIII. Donc, vous voyez bien, on était assez proche du pouvoir.
Donc, c'est lui que nous voyons dans la niche.
Tout à fait. On peut d'ailleurs, pour ceux qui visitent le musée d'art et traditions populaires, retrouver effectivement, il y a toute une petite salle qui est dédiée à Monseigneur Dauphin et où on retrouve effectivement les visages tels que nous le restitue cette statuette. Quoi.
Et dans la deuxième niche là-bas ?
Alors dans la deuxième niche, là, c'est, je dis couramment, c'est libre expression. Il faut savoir que cette maison aujourd'hui, elle est du domaine privé, mais il y a encore une vingtaine d'années, elle abritait un antiquaire et qui manifestement avait quelques dons de sculpture. Mais certains y voient Jeanne d'Arc. Moi, je ne me positionnerai pas sur... vous voyez ce que vous voulez voir.
Oui. Donc des chambres d'hôtes aussi. Hein,
oui,
donc,
on peut parler, effectivement. Vous avez visité, ça doit être le cinquième village de caractère que vous visitez. Par bonheur, effectivement, aujourd'hui, c'est un label intéressant en termes de communication touristique. Et on a la chance, enfin le village a la chance, d'une part de voir des visiteurs, et pour certains qui décident de se poser. Et là, il y a d'une part eh bien, la chambre d'hôte, Maison Dauphin, et puis également deux gîtes communaux. Donc peut-être les vertes, mais c'est le gîte de la Grande Charrière, et puis le gîte de la rue de la Poterne. Et à l'extérieur du village, on a également le gîte des Jolards dans une ancienne ferme fortifiée.
Et une auberge, j'ai vu.
Et une auberge, donc on est très satisfait, je dis très très satisfait, parce que ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui on a la chance d'avoir aux portes du village, donc à l'entrée quand vous arrivez, donc l'auberge du Vieux Creuset, et qui effectivement nous propose aux nombreuses personnes de la région, les touristes, eh bien une cuisine traditionnelle avec un souci de belle présentation. C'est vrai que le Rouennais est terre de gastronomie. Cette personne, donc Monsieur Désiré, ne se positionne pas en gastronomie, il en est bien conscient, mais pour autant, ça vaut le détour. Donc entre-temps, nous sommes arrivés
devant la maison Papon.
Devant la maison Papon, donc déjà, une précision, rassurer tout le monde, ça n'a rien à voir avec l'homme qui a défrayé la chronique au XXe siècle. Là, pour bien être sûr de se faire comprendre, on est au XVe. Au XVe et au XVIe, au XVe parce que c'est le père Pierre Papon, le père de Jean, celui qui est devant nous, dont le visage se découvre là. Donc Jean Papon est né en 1500, donc ça confirme qu'il est bien du 16e. Et tenez-vous bien, cet homme est mort en 1590. Donc au 16e siècle, faire 90 ans, aujourd'hui on est prêt à signer, nous aussi. Donc eh bien, cet homme, je pense qu'il avait tout pour lui, puisqu'il est né dans une famille, il est bien né comme l'on dit, hein, dans un niveau social intéressant. Son père était notaire au Creuset. Sa tête fonctionnait probablement très bien, et il va bénéficier des meilleures études, des meilleurs précepteurs. Donc il sera très vite remarqué, et ça va le conduire à une carrière, on va dire, c'est les prémices des hommes de loi. D'ailleurs, Jean Papon, Catherine de Médicis, lors de sa régence efficace, va faire appel à Jean Papon pour, quelque part, poser les premières règles de loi unifiée au niveau de la France. Mais c'est une France qui est, on va dire, qui est une juxtaposition de régions, chaque région ayant ses us et ses coutumes. Donc aujourd'hui, on le voit bien, c'est pas toujours qu'on a les mêmes appréciations au niveau des lois entre le Nord et le Sud. Donc vous imaginez, au 16e, l'homme s'était attelé à un chantier, on va dire, titanesque. Mais il l'a mené, puisque de ce travail sont sortis ce qu'on appelle le traité des trois notaires, donc cette fameuse, les premières bases de la loi en France, de cette loi unifiée. Tout à l'heure, quand on va s'approcher du bâtiment, on verra également au-dessus du linteau une citation latine qui précise « sileto espera », donc « silence et espère ». En fin de compte, c'est tout simplement l'entrée de la salle des gardés à vue. Jean Papon, outre le fait que c'est un homme de loi, il va rendre justice, comme bien souvent dans les villages, dans les châtellenies. L'homme qui était un petit peu au-dessus de la moyenne, eh bien, se voyait confier des rôles, des tâches d'officier de l'administration pour rendre la loi. Donc la personne ou les personnes qui s'étaient mises hors la loi, eh bien, se retrouvaient gardées à vue au sens strict du terme, donc étaient privées de liberté. Et ce qu'on lui conseillait, c'était de se taire et d'espérer. Ça a un peu changé maintenant.
Et alors que la visite se poursuivait tranquillement vers la cour de la maison Papon, les enfants du centre social de la Livade de Roanne découvraient eux aussi le village du Crozet, tout en s'amusant.
Bonjour. Vous faites un jeu de piste ?
Oui, on est le centre social de la Livade, on fait un petit jeu de piste avec les enfants du centre pour visiter un petit peu et puis apprendre le centre historique du Crozet.
C'est bien. Alors comment vous trouvez le Crozet ?
Bah écoutez, c'est très joli, on a une belle vue d'ailleurs du donjon, très impressionnante.
Ça vous plaît, ces activités ?
Oui, c'est magnifique.
C'est bien ?
Ouais, c'est trop bien. On fait travailler notre cerveau mental, quoi.
En plus, c'est bien.
Pas un peu, on a grimpé tout. On est parti du 6 au 5. C'est très, très, très difficile.
Bon, et
on a descendu, on a remonté.
Bon. Vous n'allez pas vous perdre ?
Non. Moi, je trouve que c'est bien, juste que j'aimerais voir un peu mon père.
Ah, il va venir dans pas longtemps.
Oui, merci beaucoup.
Bon, de rien, bonne continuation, bon
merci
courage.
Merci beaucoup, passez une bonne fin de journée.
Donc pour revenir à cette maison Papon, là, il m'a paru intéressant de pénétrer dans la cour intérieure, qui est une cour privée, mais où par bonheur les propriétaires sont compréhensifs, on va dire. Parce qu'il y a quelque chose qui me paraît intéressant. D'une part, ben là, on remarque forcément la façade Renaissance. Tout à l'heure, je vous parlais finalement de la maison Dauphin, qui était marquée par sa totale dissymétrie. Alors là, c'est tout le contraire. C'est le respect total de la symétrie, bien sûr, les fenêtres à meneaux et cet appareillage de briques vernissées qui donne toute la beauté de cette façade. On retrouve ça eh bien, sur Saint-Germain-l'Espinasse, quand vous dirigez vers la forêt d'Espinasse, il y a une ancienne... Alors également à Saint-André-d'Apchon, on a également ces belles façades. Pour finir pour la façade, donc là, remarquez devant nous, là, au-dessus du linteau. Alors, finalement, en termes de lecture, c'est beaucoup plus difficile. Homo homin monstrum. Donc, on peut considérer, hein, je reviens sur Jean Papon, on peut imaginer qu'il a fait édifier cette façade à 1540-1550. Eh bien, à cette époque-là, cet homme, Jean Papon, avait été déjà conscient que l'homme était un monstre pour l'homme. On peut dire qu'aujourd'hui, on a énormément progressé. Hein. Et après, vous remarquez de nombreuses citations latines. Pour certaines, c'est totalement détruit. Et là, ce n'est pas l'érosion, hein, ce n'est pas le temps qui a fait ça. C'est la trace de cette période des guerres de religion où Jean Papon, effectivement, avait pris fait et cause pour les catholiques. Et les Huguenots sont venus à Crozet lui expliquer qu'il n'avait pas forcément raison. Et donc il y a eu un détachement de gardes suisses qui est venu à Crozet. Ils n'ont pas trouvé Jean Papon, mais comme bien souvent dans ces moments-là, ils devaient être suffisamment énervés et ils s'en sont pris à sa maison et plus précisément à toutes les inscriptions latines que l'on retrouve donc dans les impostes calcaires que l'on voit, où effectivement c'est à la gloire de l'environnement catholique et religieux.
C'est ainsi que s'achève notre 4e épisode de la balade au Crozet. On se retrouve évidemment demain pour la suite et la fin de notre escapade. Nous comprendrons demain le rôle des fleurs dans le village et le déclin qu'a connu le Crozet aux alentours du 15e siècle.